Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Et si au lieu de payer votre boulanger ou votre fleuriste avec des euros, vous le payiez avec des épis, des ropis, des minutos, des toroqueux ou des éco-iris? Ces drôles de noms évoquent en fait des monnaies complémentaires. Alors on va essayer aujourd'hui d'en savoir un petit peu plus sur ces monnaies avec notre invité qui est Jean-Yves Buron. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour.
Vous êtes penché sur la question donc de ces monnaies qu'on dit complémentaires. On va voir avec vous ce que c'est, à quoi ça sert et si ça peut aider à lutter contre la pauvreté. Alors, des monnaies complémentaires, en fait, on en utilise déjà pratiquement tous sans le savoir, en fait.
Oui, donc celles qu'on connaît le mieux, ce sont les chèques repas, par exemple, qui nous sont donnés en complément de notre salaire et qu'on peut utiliser en allant faire ses courses au magasin. Ou par exemple des points de fidélité, des cartes de fidélité dans des grandes surfaces. Ou alors, pour ceux qui prennent l'avion, les fameux points miles qu'on peut accumuler et qu'on peut redépenser, pas nécessairement dans des places d'avion, mais en nuit d'hôtel, en taxi ou en achat de bouquets de fleurs, par exemple.
Voilà, et non seulement on les utilise sans le savoir, mais en plus elles existent depuis très longtemps dans nos régions, ce type de monnaie. Pas évidemment les points de fidélité sur la carte électronique. Mais...
Oui, donc les monnaies locales alors, qui sont des monnaies complémentaires, existent depuis longtemps. Donc pendant tout le Moyen-Âge, ici en Europe, dans chaque région, il y avait des monnaies battues par, on va dire, l'équivalent de la commune ou le monastère local, et qui favorisaient les échanges économiques locaux à côté des grandes monnaies en or ou en argent battues par le roi ou le grand seigneur.
Et donc on ne fait finalement que prolonger une longue tradition. Mais revenons quand même au 21e siècle. On va tout de suite prendre un exemple concret pour nous aider à comprendre ce que c'est. Prenons ici à Bruxelles l'éco-iris. Alors c'est une monnaie qui circule dans certains quartiers de Bruxelles. Qui est-ce qui est à l'origine de cette initiative ?
Donc l'éco-iris, c'est une monnaie complémentaire qui a été mise en place par la ministre de l'Environnement de la région bruxelloise, mais conçue en partenariat avec les habitants de quelques quartiers bruxellois.
Alors comment est-ce qu'on se la procure ? Parce qu'il n'y a pas de banque officielle qui frappe monnaie.
Non, donc l'éco-iris, c'est comme un bon qu'on reçoit quand on a fait une action favorable pour l'environnement ou le quartier. Donc il y a une liste d'actions dressées, et puis je vais dire un tarif. C'est des actions pour contribuer à préserver l'environnement dans son quartier, vraiment des actions concrètes, ou alors par exemple des actions comme passer à un fournisseur d'électricité verte, c'est récompensé par des éco-iris par exemple.
Et des actions favorables à l'environnement comme démarrer un potager ou,
Oui, démarrer un potager, participer à une action de nettoyage d'un quartier, embellir le quartier.
Voilà, alors une fois qu'on a gagné ces éco-iris, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on peut les dépenser?
Alors une fois qu'on a ces éco-iris, on peut les dépenser chez certains commerçants, donc qu'on appelle des prestataires adhérents au système. Et souvent, par exemple, dans le cas des éco-iris, ce sont toujours des petits commerces, pas des grandes enseignes, des petits commerces, souvent des commerces bio ou éthiques, toujours locaux. Et c'est pour favoriser aussi donc une économie verte, mais une économie locale, pour favoriser aussi les petites PME. Et aussi, on peut les dépenser par exemple pour aller au théâtre, pour prendre les transports en commun ou pour payer une partie de son fournisseur d'électricité verte par exemple.
On reviendra tout à l'heure sur les avantages de ces monnaies, mais on va un peu détailler les différents types de monnaies, parce que celle-ci dont on vient de parler, c'est ce qu'on appelle, je pense, une monnaie sécurisée, mais il y a d'autres types de monnaies. On a parlé aussi des chèques repas.
Oui, donc là, en introduisant le sujet, on a parlé des monnaies commerciales, qui sont des monnaies complémentaires. Ici, on parle plutôt des monnaies locales, qui sont aussi qu'on appelle monnaie régionale, monnaie locale, monnaie locale sociale ou monnaie locale communautaire. Donc ça, c'est un peu la même chose. Et ce sont soit des monnaies affectées, donc ça veut dire des bons qu'on reçoit et qui sont utilisés à un usage très précis, par exemple l'aide aux personnes âgées, ou alors ce sont des monnaies locales sécurisées, donc c'est de la monnaie sonnante et trébuchante, de la monnaie papier, des billets, avec leur propre graphisme, avec leur sécurité aussi, et qu'on échange dans une région, donc dans les commerces agréés, entre les différents partenaires, comme ça. Il y a aussi les monnaies temps, ce qu'on connaît comme les SEL, les systèmes d'échange local, ou les RS, les systèmes d'échange réciproque de savoir, qui sont aussi une forme de monnaie locale complémentaire. Là, il n'y a pas vraiment de billets qui circulent, mais il y a comme des comptes tenus entre les heures dépensées ou l'équivalent en heures dépensées entre les gens. Donc certains reçoivent, d'autres donnent, et on doit remettre chaque fois les compteurs à zéro. Donc ceux qui ont plus donné reçoivent par la suite, et ceux qui ont plus reçu donnent.
Pour en revenir à ces monnaies locales sécurisées dont on a parlé, de l'éco-iris, il y en a d'autres, on en parlera. Quels sont leurs avantages finalement au niveau local, que ce soit pour les citoyens ou pour les autres membres de la société?
Ben oui, donc vous venez parler du mot citoyen. On peut aussi classer ces monnaies en fonction de ceux qui les émettent ou qui les gèrent, donc des monnaies citoyennes dans ce cas-là, ou alors, comme on vient parler de l'éco-iris, des monnaies qui sont peut-être un petit peu plus institutionnelles puisqu'elles ont été voulues par le politique. Mais leur avantage, c'est de relocaliser l'économie. On voit qu'aujourd'hui, on a des grandes monnaies internationales, l'euro dans toute l'Europe, hein, le dollar, le yen. C'est toute l'économie vacille un peu au gré de la spéculation, au gré des politiques économiques mondialisées. Et là, au moins, on a un outil qui permet de la circulation de compétences, de biens, de savoirs, de services, vraiment dans une région, dans une ville et aux alentours, qui permet aussi de donner une autre valeur à la monnaie, quelque chose de plus éthique en ce qui concerne par exemple l'environnement, par exemple. Donc ne choisir que des prestataires qui respectent l'environnement, qui respectent par exemple la logique du bio. Elles peuvent avoir un sens social aussi, donc on va essayer de favoriser les entreprises qui respectent les droits de l'homme ou qui essayent d'employer des gens en déconnexion par rapport au travail. On voit par exemple des EFT, hein, des entreprises de formation par le travail. Et puis aussi, ces monnaies locales interrogent le lien entre économie et démocratie, parce qu'on se rend compte, les monnaies, on n'a plus grand-chose à dire. C'est même plus les gouvernements ni les banques centrales qui émettent la monnaie, c'est les banques privées qui, par l'octroi de prêts, hein, fabriquent en quelque sorte la monnaie, et donc nous imposent une croissance économique pour combler cette dette créée. Alors les gens ont envie de récupérer le pouvoir sur la monnaie, de se réapproprier. Et donc l'enjeu démocratique, participatif, citoyen est toujours très important dans ces démarches de monnaie locale.
Ok, merci. Voilà, on va continuer sur les avantages des monnaies locales et complémentaires après la première pause musicale. On va écouter, c'est bien dans le thème, Je te donne, de Frédéric Goldman et Jones.
RCF.
RCF.
Branchez-vous sur l'essentiel.
L'essentiel.
I can give you a voice bred with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry your thoughts in the songs we sing.
Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine, que je crois, je te donne tout.
Je te donne Frédéric Goldman et Jones, voilà, je l'aurais dit. Alors on revient donc à ce sujet passionnant des monnaies complémentaires avec notre invité Jean-Yves Buron. On parlait des avantages de ces monnaies locales, complémentaires, citoyennes, elles ont un tas de noms différents. On a parlé des avantages pour les citoyens, mais les commerçants y gagnent aussi.
Oui, donc évidemment, chaque monnaie locale ou chaque système de monnaie complémentaire doit être un win-win, doit présenter des avantages pour les participants, mais aussi pour les commerçants. C'est parfois moins évident pour du côté des commerçants ou pour comprendre quel est leur avantage, mais il faut souvent se dire que ce qui est intéressant, c'est de valoriser les petits commerces et les petites initiatives. Donc, pour les commerçants, ça joue le rôle d'une fidélisation d'une certaine clientèle. Ça les fait connaître aussi, puisqu'ils rentrent dans le système et les gens vont se dire, tiens, j'ai une monnaie complémentaire dans la poche, où est-ce que je peux l'utiliser, tiens, chez tel et tel commerçant. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et on va remarquer que pour l'instant, toute la publicité ou l'économie est surtout tournée vers les grandes enseignes et qu'il n'y a pas beaucoup de publicité pour les petits commerçants et les commerces locaux. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant. Et de toute façon aussi, une monnaie locale joue le rôle de renforcer le tissu économique local et qu'en période de crise ou de grande crise, on va pouvoir remarquer, on a déjà remarqué ça dans certaines régions, certains pays, que là où les échanges sont plus structurés, plus forts entre les petits commerçants et les gens locaux, eh bien, les habitudes sont déjà prises et peuvent permettre de franchir le cap d'une crise beaucoup plus facilement.
Mmh. Oui, et puis j'imagine que ça crée du lien social aussi. On a l'impression d'appartenir à une communauté quand on est membre de ce genre de monnaie-là.
Ben voilà, si on va dans un supermarché, on prend son caddie, on est personne, un numéro, on passe à la caisse. Si on passe la porte d'une boulangerie locale, d'un petit magasin local, apprendre à connaître les artisans de son coin. On va découvrir des choses qui se font et qu'on ne savait pas qu'elles se faisaient. On va réapprendre à découvrir un certain savoir-faire, certains produits. C'est une démarche sociale, culturelle et économique, évidemment.
Mmh. Redynamiser l'économie locale, c'est particulièrement important aussi dans le milieu rural où les gens quittent les villages, où les commerces ferment, et c'est important de garder ces commerces à proximité des gens qui, par exemple, n'ont pas de voiture. Il y a une monnaie qui existe dans le Luxembourg qui s'appelle l'EPI. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, donc c'est un groupe de citoyens réunis en association. Et comme certains groupes citoyens qui portent le projet de monnaie locale, ils font partie du réseau de financement alternatif. Donc ils ont lancé l'EPI en 2012, qui est une monnaie complémentaire locale qui est utilisable en Lorraine belge, donc dans le sud, dans la région de Virton. Mmh. Et alors, pour ces citoyens, l'objectif est triple. D'abord, favoriser une économie respectueuse de la nature et de la vie, donc de l'environnement. Reprendre le contrôle sur la monnaie pour remodeler les relations économiques et sociales locales, hein, et notamment en générant des solidarités entre les personnes. Et favoriser une répartition plus équitable de la richesse. Alors, l'EPI, c'est une monnaie sonnante et trébuchante, une monnaie papier, qui circule entre les gens et qui peut déjà être dépensée dans 24 localités, dont 3 localités françaises, ce qui est intéressant, elle sort des frontières.
Ouais. Ouais.
Et aux étals de quelques déjà 6 marchés, donc des marchés comme le marché de Virton ou le marché de Florentville, mais aussi ce qu'on appelle des marchés fermiers, comme à Chassepierre, par exemple, où il y a un marché dans une petite ferme et où on peut aller directement avoir un contact avec le producteur de fruits et de légumes. Donc on voit vraiment, c'est intéressant, on resserre l'économie.
On refait de la vie finalement.
Voilà, c'est ça. Et en plus, avec l'EPI, il y a déjà 5 associations qui acceptent de rémunérer du moins en partie en EPI. Donc là aussi, ils sont passés dans une dynamique intéressante. Mais bon, c'est né en 2012. Pour pouvoir parler des retombées, des impacts, il faudra encore un peu attendre, mais on voit une énorme motivation, on voit déjà beaucoup de participants, et donc c'est très prometteur.
On parle donc des avantages pour la population, mais est-ce que ce type de monnaie peut en particulier servir à lutter contre la pauvreté, par exemple pour les gens qui n'ont pas le revenu en euros grâce à leur travail? Est-ce que le fait d'avoir ces monnaies complémentaires peut les aider à participer à l'économie?
Alors, une monnaie complémentaire n'est pas une... allez, c'est pas de la magie. Il n'y a pas de baguette magique pour changer la situation du tout au tout. Ce qu'on remarque d'abord, c'est que vu les objectifs et ce à quoi tend les monnaies complémentaires, c'est que si elles permettent de changer un peu la société, ça va aller vers plus de répartition des richesses et plus de richesses dans l'économie locale, à l'heure où, avec l'euro par exemple, on est dans les spéculations, on est avec 95% de la masse monétaire investie dans l'économie spéculative, les bulles spéculatives, et donc pas dans l'économie réelle, à une période aussi où on parle de fuite des capitaux. Donc une monnaie qui ancre la richesse dans la vie de tous les jours, dans les échanges économiques locaux, ne peut faire en sorte que un mieux, je veux dire, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté.
Ok, on va déjà faire notre deuxième pause musicale chaque fois, ça va très vite. On va écouter « Où vont les chevaux quand ils dorment » sans aucun lien avec l'actualité par Romain Didier, c'est une chanson d'Alain Leprest.
Les chevaux quand ils dorment, et dans les nuits de Bilbao, combien la lune au bout de sa corne veut-elle danser le torero? Est-ce que le soleil est humide? Est-ce que la lumière est un son? Sage femme des pharaons, dis-nous l'homme, bête de somme, où vont les chevaux quand ils dorment? Où vont les chevaux quand ils dorment? Qui a dit le vent, où est savant? Pourquoi ma chanson, je la donne? Pourquoi ta bouche, tu la vends? Quel âge t'as quand tu souris? Combien de kilos d'herbe noire sont arrivés à Miami? Quand le soir nous prête sa gomme, où vont les chevaux quand ils dorment? L'odeur du fric, quel goût ça, l'odeur de l'eau? Est-ce qu'on peut tout mettre en musique, celui là-bas ou un salaud? Il fait le moins 10 degrés à Rome, où vont les chevaux quand ils dorment?
Romain Didier, où vont les chevaux quand ils dorment? Voilà, on revient à notre thème du jour, qui sont donc les monnaies locales. On expliquait un peu comment ces monnaies peuvent, peut-être pas lutter contre la pauvreté, mais recréer du lien et recréer du collectif dans l'économie locale. Alors, il y a un exemple qui est assez frappant, où vraiment cette monnaie locale a été conçue pour justement lutter contre la précarité et recréer de la vie dans un quartier précarisé. Ça se passe chez nos amis flamands, à Gand.
Oui, donc à Gand, il y avait un grand projet de réhabilitation, de désenclavement, de développement d'un des quartiers les plus pauvres de Flandre, qu'on appelle le Rabot. Et au sein de ce projet, qui était porté par les autorités locales, mais aussi par un certain nombre d'associations, il y a eu la mise sur pied d'un jardin communautaire, hein, maraîchage, petit élevage de volailles, de lapins. Et les gens étaient très intéressés par ce ce potager. Et en 2010, une monnaie complémentaire locale, le toreke, a été mise en circulation et il fallait pouvoir avoir des toreke pour louer pendant un an une parcelle du jardin communautaire. Donc ça, c'était un peu l'entrée dans le système. Il fallait 150 torekes, et donc c'est l'équivalent de 15 euros. Et comment obtenir ces torekes ? Eh ben, par exemple, en nettoyant les parcs, les plaines de jeux du quartier, en mettant des fleurs au balcon, en passant l'électricité verte, en participant ou en organisant des activités sportives dans le quartier, en se prêtant le matériel pour le barbecue, ou en devenant par exemple parrain ou marraine du terrain de pétanque. Donc vraiment, création, embellir le quartier, préserver l'environnement, renouer les liens sociaux.
Et des choses qui sont accessibles à tout le monde. Hein,
Et donc, vous aviez beau avoir... pas beaucoup d'euros dans votre portefeuille, vous pouviez mettre en œuvre vos compétences pour acquérir cette monnaie locale et pour pouvoir, par exemple, louer une parcelle du jardin communautaire et aussi aller au théâtre, payer les transports en commun et aller chez certains commerçants. Et donc là, vraiment, ça a eu beaucoup de succès. La première année, 200 habitants du quartier ont pris part au système, notamment avec des jours de travail organisés pour ceux qui voulaient. Et on voit que y a plus de 40 000 torekes qui avaient été échangés pendant la première année par 371 habitants. Et on remarque que ça faisait à peu près pour 100 euros par participant. Donc 100 euros, c'est pas grand-chose, mais il faut imaginer tout ce qu'il y a dans la dynamique tout autour, comme liens sociaux, comme créativité, comme compétences partagées, bénéfiques pour tous dans le quartier. Mmh.
Et comme activité pour des gens qui peut-être sont au chômage et de nouveau ont le plaisir de participer à quelque chose de collectif et d'utile. Voilà, on aurait pu encore parler longuement sur ce sujet passionnant. On va renvoyer nos auditeurs à une analyse qui paraît sur notre site internet. De www.vivre-ensemble.be. On aurait pu parler des SEL aussi, on a un petit peu parlé des services d'échange locaux. Mais voilà, c'est tout un sujet et ça fait peut-être un petit peu partie de tout ce mouvement de transition vers une autre société.
Oui, tout à fait, mouvement de transition. Et d'ailleurs, moi je vous invite à être curieux, à voir s'il n'y a pas un groupe qui est en train de porter ou d'élaborer une monnaie locale dans votre coin. Ça pourrait être intéressant de s'y intéresser justement.
Oui, ça peut partir par exemple d'un potager communautaire. On sait qu'à Bruxelles, il y a pas mal de potagers communautaires, on peut lancer une initiative de monnaie complémentaire à partir de ça. Voilà, ben merci beaucoup Jean-Yves d'être venu nous parler de tout ça.
Merci.
Et à très bientôt sur RCF.